Chapitre 14 Incidence, peste. À l'époque de la peste d'Athènes, l'an 431 avant notre ère, 22 grandes pestes avaient déjà ravagé le monde. Les Athéniens se figurèrent qu'on avait empoisonné leurs puits, imagination populaire renouvelée dans toutes les contagions. Thucydide nous a laissé du fléau de l'Attique une description copiée chez les anciens par Lucrèce, Virgile, Ovide, Lucain, chez les modernes par Boccace et Manzoni. Il est remarquable qu'à propos de la peste d'Athènes, Thucydide ne dit pas un mot d'Hippocrate, de même qu'il ne nomme pas Socrate à propos d'Alcibiade. Cette peste, donc, attaquait d'abord la tête, descendait dans l'estomac, de là dans les entrailles, enfin dans les jambes. Si elle sortait par les pieds après avoir traversé tout le corps, comme un long serpent, on guérissait. Hippocrate l'appela le mal divin, et Thucydide le feu sacré. Ils la regardèrent tous deux comme le feu de la colère céleste. Une des plus épouvantables pestes fut celle de Constantinople au Ve siècle, sous le règne de Justinien. Le christianisme avait déjà modifié l'imagination des peuples et donné un nouveau caractère à une calamité, de même qu'il avait changé la poésie. Les malades croyaient voir errer autour d'eux des spectres et entendre des voix menaçantes. La peste noire du XIVe siècle, connue sous le nom de la mort noire, prit naissance à la Chine. On s'imaginait qu'elle courait sous la forme d'une vapeur de feu en répandant une odeur infecte. Elle emporta les 4/5 des habitants de l'Europe. En 1575, descendit sur Milan la contagion qui rendit immortelle la charité de saint Charles Borromée. 54 plus tard, en 1629, cette malheureuse ville fut encore exposée aux calamités dont Manzoni a fait une peinture bien supérieure au célèbre tableau de Boccace. En 1660, le fléau se renouvela en Europe. Et dans ces deux pestes de 1629 et 1660, se reproduisirent les mêmes symptômes de délire de la peste de Constantinople. Guillemets. Marseille, dit M. Lemontet, sortait en 1720 du sein des fêtes qui avaient signalé le passage de Mademoiselle de Valois, mariée au duc de Modène. À côté de ces galères encore décorées de guirlandes et chargées de musiciens, flottaient quelques vaisseaux, apportant des ports de la Syrie la plus terrible calamité. Fin des guillemets. Le navire fatal dont parle M. Lemontet, ayant exhibé une patente nette, fut admis un moment à la pratique. Ce moment suffit pour empoisonner l'air. Un orage accrut le mal et la peste se répandit à coups de tonnerre. Les portes de la ville et les fenêtres des maisons furent fermées. Au milieu du silence général, on entendait quelquefois une fenêtre s'ouvrir et un cadavre tomber. Les murs ruisselaient de son sang gangrené, et des chiens sans maître l'attendaient, en bas, pour le dévorer. Dans un quartier dont tous les habitants avaient péri, on les avait murés à domicile, comme pour empêcher la mort de sortir. De ces avenues de grands tombeaux de famille, on passait à des carrefours, dont les pavés étaient couverts de malades et de mourants étendus sur des matelas et abandonnés sans secours. Des carcasses gisaient à demi pourries avec de vieilles hardes mêlées de boue. D'autres corps restaient debout, appuyés contre les murailles, dans l'attitude où ils étaient expirés. Tout avait fui, même les médecins. L'évêque, M. de Belzunce, écrivait « On devrait abolir les médecins, ou du moins nous en donner de plus habiles ou de moins peureux. J'ai eu bien de la peine à faire tirer 150 cadavres à demi pourris qui étaient autour de ma maison. » Fin de guillemets. Un jour, des galériens hésitaient à remplir leurs fonctions funèbres. L'apôtre monte sur l'un des tombereaux, s'assied sur un tas de cadavres, et ordonne aux forçats de marcher. La mort et la vertu s'en allaient au cimetière, conduites par le crime et le vice épouvantés et admirants. sur l'esplanade de la Tourette, au bord de la mer. On avait, pendant 3 semaines, porté des corps, lesquels, exposés au soleil et fondus par ses rayons, ne présentaient plus qu'un lac empesté. Sur cette surface de chair liquéfiée, les vers seuls imprimaient quelques mouvements à des formes pressées, indéfinies, qui pouvaient avoir été des effigies humaines. Quand la contagion commencera de se ralentir, M. de Belzunce, à la tête de son clergé, se transporta à l'église des Accoules. Monté sur une esplanade d'où l'on découvrait Marseille, les campagnes, les ports et la mer, il donna la bénédiction, comme le pape à Rome bénit la ville et le monde. Quelle main plus courageuse et plus pure pouvait faire descendre sur tant de malheurs les bénédictions du ciel? C'est ainsi que la peste dévasta Marseille, et 5 ans après ces calamités, on plaça sur la façade de l'hôtel de ville l'inscription suivante, comme ces épitaphes pompeuses qu'on lit sur un sépulcre. Massilia Focensium filia, Romae soror, Carthaginis terror, Athenarum aemula. Chapitre 15. Paris, rue d'Enfer, mai 1832. Le choléra. Le choléra, sorti du delta du Gange en 1817, s'est propagé dans un espace de 2200 lieues, du nord au sud, et de 3500 de l'Orient à l'Occident. Il a désolé 1400 villes, moissonné 40 millions d'individus. On a une carte de la marche de ce conquérant. Il a mis 15 années à venir de l'Inde à Paris. C'est allé aussi vite que Bonaparte. Celui-ci employa à peu près le même nombre d'années à passer de Cadix à Moscou, et il n'a fait périr que 2 ou 3 millions d'hommes. Qu'est-ce que le choléra? Est-ce un vent mortel? Sont-ce des insectes que nous avalons et qui nous dévorent? Qu'est-ce que cette grande mort noire armée de sa faux, qui, traversant les montagnes et les mers, est venue comme une de ces terribles pagodes adorées au bord du Gange, nous écraser aux rives de la Seine, sous les roues de son char? Si ce fléau fut tombé au milieu de nous dans un siècle religieux, qu'il se fût élargi dans la poésie des mœurs et des croyances populaires, il eût laissé un tableau frappant. Figurez-vous un drap mortuaire, flottant en guise de drapeau, au haut des tours de Notre-Dame. Le canon faisant entendre par intervalles des coups solitaires pour avertir l'imprudent voyageur de s'éloigner. Un cordon de troupes cernant la ville et ne laissant entrer ni sortir personne. Les églises remplies d'une foule gémissante. Les prêtres psalmodiant jour et nuit les prières d'une agonie perpétuelle. Le viatique porté de maison en maison avec des cierges et des sonnettes. Les cloches ne cessant de faire entendre le glas funèbre. Les moines, un crucifix à la main, appelant dans les carrefours le peuple à la pénitence, prêchant la colère et le jugement de Dieu, manifestés sur les cadavres déjà noircis par le feu de l'enfer. Puis les boutiques fermées, le pontife entouré de son clergé, allant, avec chaque curé à la tête de sa paroisse, prendre la chasse de Sainte Geneviève. Les saintes reliques promenées autour de la ville, précédées de la longue procession des divers ordres religieux, confréries, corps de métier, congrégations de pénitents, théories de femmes voilées, écoliers de l'université, des servants des hospices, soldats sans armes ou les piques renversées. Le miséréré chanté par les prêtres se mêlant aux cantiques des jeunes filles et des enfants. Tous, à certains signaux, se prosternant en silence et se relevant pour faire entendre de nouvelles plaintes. Rien de tout cela. Le choléra nous est arrivé dans un siècle de philanthropie, d'incrédulité, de journaux, d'administration matérielle. Ce fléau sans imagination n'a rencontré ni vieux cloître, ni religieux, ni caveau, ni tombe gothique. Comme la terreur de 1793, il s'est promené d'un air moqueur à la clarté du jour, dans un monde tout neuf, accompagné de son bulletin qui racontait les remèdes qu'on avait employés contre lui, le nombre des victimes qu'il avait faites, où il en était, l'espoir qu'on avait de le voir encore finir, les précautions qu'on devait prendre pour se mettre à l'abri, ce qu'il fallait manger, comment il était bon de se vêtir. Et chacun continuait de vaquer à ses affaires, et les salles de spectacle étaient pleines. J'ai vu des ivrognes à la barrière, assis devant la porte du cabaret, buvant sur une petite table de bois et disant en élevant leur verre « À ta santé, Morbus !» Morbus, par reconnaissance, accourait, et il tombait mort sous la table. Les enfants jouaient au choléra. Ils l'appelaient le Nicolas Morbus et le scélérat Morbus. Le choléra avait pourtant sa terreur, un brillant soleil, l'indifférence de la foule, le train ordinaire de la vie, qui se continuait partout, donnait à ces jours de peste un caractère nouveau
et une autre sorte d'épouvante.
On sentait un malaise dans tous les membres. Un vent du nord, sec et froid, vous desséchait. L'air avait une certaine saveur métallique qui prenait à la gorge. Dans la rue du Cherche-Midi, des fourgons du dépôt d'artillerie faisaient le service des cadavres. Dans la rue de Sèvres, complètement dévastée, surtout d'un côté, les corbillards allaient et venaient de porte en porte. Ils ne pouvaient suffire aux demandes. On leur criait par les fenêtres « Corbillard, ici !» Le cocher répondait qu'il était chargé et ne pouvait servir tout le monde. Un de mes amis, M. Pouqueville, venant dîner chez moi le jour de Pâques, arrivé au boulevard du Montparnasse, fut arrêté par une succession de bières, presque toutes portées à bras. Il aperçut dans cette procession le cercueil d'une jeune fille, sur lequel était déposée une couronne de roses blanches. Une odeur de chlore formait une atmosphère empestée à la suite de cette ambulance fleurie. Sur la place de la Bourse, où se réunissaient des cortèges d'ouvriers en chantant la Parisienne, on vit souvent jusqu'à 11 heures du soir défiler des enterrements vers le cimetière Montmartre à la lueur de torches de goudron. Le Pont-Neuf était encombré de brancards chargés de malades pour les hôpitaux ou de morts expirés dans le trajet. Le péage cessa quelques jours sur le pont des Arts. Les échoppes disparurent et comme le vent du nord-est soufflait, tous les étalagistes et toutes les boutiques des quais fermèrent. On rencontrait des voitures enveloppées d'une banne et précédées d'un corbeau ayant en tête un officier de l'état civil, vêtu d'un habit de deuil, tenant une liste en main. Ces tabellions manquèrent. On fut obligé d'en appeler de Saint-Germain, de La Villette, de Saint-Cloud. Ailleurs, les corbillards étaient encombrés de 5 ou 6 cercueils retenus par des cordes. Des omnibus et des fiacres servaient au même usage. Il n'était pas rare de voir un cabriolet orné d'un mort couché sur sa devantière. Quelques décédés étaient présentés aux églises, un prêtre jetait de l'eau bénite sur ses fidèles de l'éternité réunis. À Athènes, le peuple crut que les puits voisins du Pirée avaient été empoisonnés. À Paris, on accusa les marchands d'empoisonner le vin, les liqueurs, les dragées et les comestibles. Plusieurs individus furent déchirés, traînés dans le ruisseau, précipités dans la Seine. L'autorité a eu à se reprocher des avis maladroits ou coupables. Comment le fléau, étincelle électrique, passa-t-il de Londres à Paris ? On ne le saurait expliquer. Cette mort fantasque s'attache souvent à un point du sol, à une maison, et laisse sans y toucher les alentours de ce point infesté. Puis elle revient sur ses pas et reprend ce qu'elle avait oublié. Une nuit, je me sentis attaquée. Je fus saisie d'un frisson avec des crampes dans les jambes. Je ne voulus pas sonner de peur d'effrayer Madame de Chateaubriand. Je me levai. Je chargeai mon lit de tout ce que je rencontrais dans ma chambre et me remettant sous mes couvertures, une sueur abondante me tira d'affaire. Mais je demeurai brisé, et ce fut dans cet état de malaise que je fus forcé d'écrire ma brochure sur les 12 000 francs de Madame la Duchesse de Berry. Je n'aurais pas été trop fâché de m'en aller, emporté sous le bras de ce fils aîné de Vishnou, dont le regard lointain tua Bonaparte sur son rocher, à l'entrée de la mer des Indes. Si tous les hommes, atteints d'une contagion générale, venaient à mourir, qu'arriverait-il ? Rien. La terre, dépeuplée, continuerait sa route solitaire, sans avoir besoin d'autres astronomes pour compter ses pas que celui qui les a mesurés de toute éternité. Elle ne présenterait aucun changement aux habitants des autres planètes. Ils la verraient accomplir ses fonctions accoutumées. Sur sa surface, nos petits travaux, nos villes, nos monuments seraient remplacés par des forêts rendues à la souveraineté des lions. Aucun vide ne se manifesterait dans l'univers. Et cependant, il y aurait de moins cette intelligence humaine qui sait les astres et s'élève jusqu'à la connaissance de leur hauteur. Qu'êtes-vous donc, ô immensité des œuvres de Dieu ? Ou le génie de l'homme, qui équivaut à la nature entière, s'il venait à disparaître, ne ferait pas plus faute que le moindre atome retranché de la création ?